Chers frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Quelle joie encore de partager la parole de Dieu ensemble ce soir. La semaine passée, nous avons abordé cette question. Savons-nous le prix d'une âme afin de nous aider à grandir dans le regard envers notre prochain? Aujourd'hui, toujours dans ce thème de notre relation avec notre prochain et particulièrement celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont loin de Dieu, nous allons nous poser une autre question. Pourquoi est-il important d'évangéliser? Le Seigneur nous a confié une grande mission. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur Jésus a dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cet autre texte, dans l'Évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Évangile signifie « bonne nouvelle » et c'est un message que Christ a prêché le premier. Ensuite, les apôtres l'ont prêché également. Et cette bonne nouvelle, tout disciple de Jésus-Christ doit à son tour l'annoncer. Alors posons-nous cette question ce soir. Pourquoi il est important d'évangéliser? Eh bien, la première chose que nous pourrions dire, c'est que c'est un commandement du Seigneur. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, notre désir, c'est d'être obéissant, d'obéir à la volonté de Dieu, surtout quand elle est aussi explicitement exprimée. Il est écrit ceci dans Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Nous savons, l'Écriture le dit, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 15 et au verset 18. Nous avons ce désir dans nos cœurs de rentrer dans ce chemin de l'obéissance. Nous pourrions faire beaucoup, beaucoup de sacrifices dans notre consécration à Dieu, mais si nous ne consacrons pas notre vie à ce commandement divin que Jésus nous a laissé, nous sommes, en quelque sorte, coupables devant Dieu d'un grand péché. Il y a cet ordre du Seigneur, aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. C'est important pour nous, et je crois que c'est le désir de nos cœurs, de répondre au commandement du Seigneur, d'être dans ce chemin de l'obéissance. La Bible est claire. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut, donc nous connaissons la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chers frères et sœurs, nous sommes dans sa volonté quand nous prions pour le salut des âmes. Et nous devons le faire sans relâche. Nous devons prier pour les âmes perdues. Nous sommes dans sa volonté quand nous agissons, pour le salut des âmes perdues. Oui, combien en tant que croyants nous réalisons qu'il est important d'obéir à la parole du Seigneur, de nous conformer à la volonté de Dieu. Ici, très clairement exprimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est un commandement du Seigneur. L'apôtre Paul a pu dire ceci: « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 16. Pourquoi il est important d'évangéliser? Laissez-moi vous laisser une deuxième raison. C'est parce que c'est aussi pour nous une belle occasion de partager, de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, vous pourrez lire personnellement à partir du verset 26, mais je lis à partir du verset 37. Il est écrit ceci: « Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. » Amen. Quelle belle occasion pour nous de partager. Lorsque Jésus va envoyer les 12, il leur dira ceci: « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Matthieu 10 et le verset 8. Dieu nous a donné tellement de choses à partager avec tous ceux à qui nous communiquerons les valeurs de l'Évangile. Et j'insiste sur ce partage qui peut avoir différentes formes. Ce peut être que le regard, la joie qui émane de nos vies, la simplicité, les choix, les attitudes, les comportements, tout cela sont autant d'occasions de partager la belle œuvre que Jésus a fait dans nos vies. Paul rappelle ces paroles de Jésus-Christ que nous ne trouvons pas d'ailleurs dans les évangiles. Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ceux qui ont déjà eu l'occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ce témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, dans votre vie, ne sait combien c'est une réalité, cette joie que nous avons de partager, surtout quand ces hommes et ces femmes découvrent le chemin de la repentance, le chemin du salut de leur âme, quand le deuil est transformé en allégresse, quand il y a cette joie dans le cœur. Pour vous qui l'avez peut-être expérimenté, c'est une joie extraordinaire d'enfanter des âmes. Nous avons reçu beaucoup, beaucoup, mes frères et sœurs. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu le pardon, la guérison de notre âme, de parfois notre esprit, l'intérieur, des guérisons spirituelles, mais aussi, bien sûr, cette guérison physique parfois. Nous avons reçu tant d'amour à partager avec les autres. Évangéliser, c'est une belle occasion de partager ces choses autour de nous. Je voudrais dire dans ce troisième point, pourquoi évangéliser? C'est parce que, en définitive, sans que nous nous en rendions bien compte, le Saint-Esprit nous a été donné premièrement dans cet objectif, d'être des témoins. Permettez-moi de vous relire ces quelques versets dans Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pourquoi évangéliser? Un commandement du Seigneur, une occasion de partager, et aussi parce que le but premier pour lequel nous avons été remplis, inondés, baptisés, du Saint-Esprit, c'est justement pour être ces témoins de la bonne nouvelle, témoins de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes qui se sont données à Jésus-Christ. Quelle moisson! Les apôtres, en recevant l'onction du Saint-Esprit, ont eu cette assurance, cette puissance, cette autorité pour annoncer le message de l'Évangile. Nous avons besoin, nous aussi, dans ces temps parfois compliqués et difficiles, dans un monde très fermé aux valeurs de l'Évangile, Nous avons besoin aussi d'être revêtus de cette puissance du Saint-Esprit afin d'être des témoins à la gloire de son nom. Être rempli du Saint-Esprit fait témoignage, si vous regardez dans Galates, les références aux fruits d'esprit, c'est effectivement être rempli de joie, de paix, de sérénité, cette maîtrise de soi, toutes ces valeurs et cet amour qui inonde nos cœurs et nos vies. C'est l'explosion, je dirais, de la vie de Christ dans nos vies, cette puissance qui ressort de chacune de nos existences, afin que nous puissions être des témoins puissants à la gloire de son nom. D'ailleurs, si vous regardez dans les dons du Saint-Esprit, certains nous sont, c'est vrai, donnés pour notre édification, mais d'autres le sont aussi pour les non-croyants. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23, il est écrit ceci. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Le but premier pour lequel nous avons été remplis du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins pour Christ par toute cette vie que nous vivrons, par ces paroles bien sûr que nous communiquerons, mais aussi par ses choix, ses attitudes, ses comportements, un visage rayonnant déjà. Tout ce que nous pourrons afficher devant ce monde. Et nous rappelons ces paroles où Jésus nous fait bien comprendre dans l'évangile de Jean que nous avons été laissés aussi dans le monde pour le gagner à la cause de Christ. Pourquoi évangéliser? Je terminerai par cet autre point. C'est que c'est l'occasion aussi d'avertir les hommes. Prêcher la bonne nouvelle signifie aussi annoncer la mauvaise nouvelle. Il est écrit ceci dans Actes chapitre 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Cet autre texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36, « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. » Ça, c'est la bonne nouvelle. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Mais la mauvaise nouvelle, elle est celle-ci. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prêcher la bonne nouvelle, c'est aussi annoncer la mauvaise nouvelle. Il y a un peu cette comparaison avec les temps de Noé qui sont sur beaucoup de points similaires à ceux que nous vivons, selon d'ailleurs ce que Jésus-Christ a annoncé avant son retour. Mais il y a effectivement pour nous une occasion, en prêchant la bonne nouvelle, c'est d'avertir nos contemporains, notre génération, de ce qu'il adviendra de celles et ceux qui refuseront, qui rejetteront le Seigneur. La colère de Dieu demeure sur leur vie. Nous sommes comme des avertisseurs dans ce monde, chaque fois que nous sommes engagés à proclamer la bonne nouvelle. Alors je terminerai par ces quelques mots. Si nous ne diffusons pas la bonne nouvelle dans notre monde, qui le fera? Quel média aujourd'hui fera cette fonction? Nous bénissons Dieu pour celles et ceux qui ont eu le courage de nous parler de Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulons être pour nos contemporains, la génération dans laquelle Jésus nous a placés, nous voulons être ses témoins. Nous avons été bénis et nous voulons bénir à notre tour. L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, verset 13, dit ceci, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. » Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons penser à des personnes qui ont été vraiment des instruments bénis entre les mains du Seigneur pour nous parler ou pour être tout simplement des hommes et des femmes qui, par leur comportement, nous ont donné envie de connaître Jésus-Christ. Ils nous ont donné envie, nous aussi, de connaître celui qui avait bouleversé leur vie, celui qui avait mis tant de paix, tant de calme aussi parfois, et celui qui avait donné tant de sagesse à ces gens-là. Nous aussi, nous voulons être ses porteurs, et il y a tellement de raisons pour que nous soyons vraiment engagés les uns les autres pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais terminer simplement avec vous, en vous proposant de vous recueillir et de prier ensemble le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons ensemble, une fois de plus, te bénir de tout notre cœur pour tous ces hommes, toutes ces femmes que tu as placés sur notre chemin, que tu as placé un jour sur notre route et qui ont véritablement pour nous été comme cette lettre lue, cette lettre que nous pouvions lire sur leur vie, dans leur façon d'être, de se comporter. Nous avons eu envie de te connaître. Alors merci de les avoir choisis, de les avoir utilisés. Et ce que nous voudrions te demander de tout notre cœur, c'est que le Saint-Esprit agisse si fortement dans nos cœurs que jour après jour nous puissions, les uns et les autres, être façonnés à ton image. Nous voulons te ressembler davantage. Nous voulons faire les choix que tu ferais toi-même. Nous voulons voir le cœur de nos contemporains comme toi tu les vois. Nous voulons que tu augmentes en nous l'amour pour les âmes, que nous puissions prier, que nous puissions intercéder pour eux de tout notre cœur, que nous puissions aussi, chaque jour que tu nous donnes de vivre dans ce monde, être des témoins à la gloire de ton nom, par nos paroles, bien sûr, par les choix que nous ferons, par les attitudes, les comportements que nous pourrons avoir, par l'approche que nous pouvons avoir, ne serait-ce que ce visage rempli de paix et de sérénité. Oui, Seigneur, nous voulons te ressembler davantage. Et à notre tour, nous te prions pour que nous puissions être ces témoins, comme les autres l'ont été pour nos vies. Nous voulons vraiment bénir cette génération qui en a tellement besoin. Seigneur, là où tu nous as placés, que ce soit sur un lieu de travail, dans notre famille, dans notre foyer, qu'importe l'endroit, Seigneur, que nous ne puissions pas, Seigneur, mépriser ce que tu nous as donné, mais que nous puissions réaliser que le temps que tu nous y places, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des témoins à la gloire de ton nom. Merci parce que c'est une grâce en définitive de pouvoir témoigner de toi chaque jour de notre vie. Que ton nom soit béni et nous voulons profiter de cette occasion pour te prier ensemble pour la prochaine réouverture aussi de notre église. Guide-nous, conduis-nous Seigneur. Nous remettons encore nos vies entre tes mains et te bénissons de ce que passe malgré ces temps particuliers. Nous pouvons continuer dans la communion fraternelle à te bénir, à te louer, à te rendre grâce et à partager ta parole si bénissante pour nous chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il vous garde, qu'il vous donne toujours ce courage pour aller de l'avant. Et je vous dis à très bientôt, comme Dieu le voudra, à l'église, par les moyens d'Internet, qu'importe. Mais nous voulons bénir le Seigneur pour tous ces moyens qu'il nous donne de vivre encore la communion fraternelle. Mais comme vous, il y a cette hâte dans mon cœur de pouvoir nous retrouver dans ce lieu, nous avons l'habitude de nous retrouver. Alors prions ensemble pour cela et que la volonté du Seigneur soit faite. Amen.